Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
L'Europe de l'Atlantique à l'Oural.
Si la France et l'Union soviétique, chacune de son côté, ont ce qu'il leur faut pour vivre, il est clair qu'en se mettant ensemble, en s'aidant l'une l'autre, elles ont à gagner beaucoup.
Pour marquer que l'Europe était un ensemble déterminé par sa géographie, il est arrivé au général de Gaulle d'utiliser toutes sortes de formules. Il a même parlé une fois d'un continent qui allait de l'Islande à Istanbul. Mais sa formule préférée consistait à le faire partir de l'Atlantique pour le projeter jusqu'à l'Oural. L'expression fut prononcée dès 1950, elle retint l'attention et de Gaulle la répéta en public une bonne quinzaine de fois. Le magicien du verbe n'entra d'ailleurs jamais dans le détail de ce que la formule recouvrait précisément. En revanche, il croyait en une relation singulière de la France et de la Russie éternelle. Nos intérêts, disait-il, pouvaient souvent coïncider. Aussi, au nom de l'histoire et de la géographie, la Ve République mit-elle en œuvre une politique de détente, d'entente et de coopération. Aujourd'hui, que revient le refrain de l'Atlantique et de l'Oural, il importe néanmoins de souligner que la politique gaullienne ne signifiait nullement fascination pour le régime, alors au pouvoir à Moscou. Au contraire, l'espoir formulé était que disparaisse à terme le régime que la Russie s'imposait à elle-même et imposait à l'Europe de l'Est, dont la France souhaitait qu'elle rejoigne l'Europe de l'Ouest. D'ailleurs, au total, sous De Gaulle, les années de difficulté avec Moscou furent nombreuses et après l'occupation soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968, le règne s'acheva sous le signe du refroidissement. En tout cas, on ne voit pas que le général ait jamais fait applaudir en meeting en France les dirigeants de Moscou.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Gaël Moulec, bonjour.
Bonjour.
Qui a publié aux éditions de Paris chez Max Chaleil pour une Europe de l'Atlantique à l'Oural, De Gaulle et l'URSS. 1958, quand le général De Gaulle revient au pouvoir, il y a quand même une circonspection mutuelle, et chez les Soviétiques, et à Paris.
Circonspection, oui, mais surtout attente et connaissance. Connaissance parce qu'ils se sont déjà rencontrés pendant la guerre, ils se connaissent.
Grand voyage du général de Gaulle en décembre 44 chez Staline.
Voilà. Et ils se connaissent, et, ils apprécient aussi leur vision, qui a été celle d'alliés pendant la guerre. Et surtout, je dirais, ils savent qu'ils ont des choses à faire ensemble. Les Russes savent qu'ils doivent travailler avec les Français savent qu'ils doivent travailler avec les Russes. Et le général de Gaulle, bien évidemment, voit la Russie comme une possibilité de se démarquer de l'influence américaine.
Oui, mais à Moscou, on a des interlocuteurs privilégiés qui sont ceux que vous appelez les amis français, les membres du Parti communiste français. Puis on entend que le général de Gaulle tient un langage anticommuniste à l'intérieur. Il mange même sur le dos du PC, les électeurs ouvriers.
Tout à fait, tout à fait. Et cela donne lieu à de nombreuses documentations, de nombreux documents sur cette question, puisque pour la Russie, pour les Soviétiques, le général de Gaulle, c'est un peu un ovni. C'est quelqu'un qu'il n'arrive pas tout à fait à saisir. C'est un nationaliste, c'est un anticommuniste. Dès 1920, puisqu'il est quand même conseiller contre les troupes de l'armée rouge en Pologne. Et donc, c'est un homme qu'ils n'arrivent pas tout à fait à saisir. Ils savent que son anticommunisme s'arrête là où l'intérêt de la France commence. C'est-à-dire à pouvoir monter des projets, des choses avec la Russie.
Alors, il y a un agent numéro un du régime de Moscou, c'est l'ambassadeur Sergueï Vinogradov, qui est en poste dès 1953, qui va le rester pendant une douzaine d'années. Au moment de ses adieux, le camarade Léon Zitrone, a tendu, c'est le mot, son micro.
J'ai lu beaucoup de littérature française, littérature classique, contemporain. Naturellement, l'histoire de la France. Parce que j'aime beaucoup l'histoire de la France.
Vous êtes historien, monsieur l'ambassadeur.
Oui, je suis historien, mais l'histoire de France, c'est l'histoire vraiment, c'est digne de le peuple français. L'histoire, le peuple révolutionnaire. Le peuple français, il a fait beaucoup de révolutions, et surtout comme les grandes révolutions françaises, n'est-ce pas? Et les communes de Paris.
Bien sûr.
Bien sûr, dit Léon Zitron. Attendez, pour être un historien, on va revenir au personnage de Vinogradov dans un instant. Il faut pratiquer les archives. L'originalité de votre livre pour une Europe de l'Atlantique à l'Oural, Gaël Moulec, c'est qu'elle se fonde sur les archives du ministère des Affaires étrangères de Moscou et de la section internationale du Parti communiste de l'Union soviétique.
Tout à fait, donc, un travail qui avait été mené au début des années 90 et qui m'a permis de lire et d'utiliser donc les archives qui sont conservées aux archives dites du comité central et qui regroupent donc les rapports qui étaient faits à la fois par le ministère des Affaires étrangères et envoyés au comité central et les rapports bien évidemment des sections interne, si on peut dire, du comité central. Donc ça permet de croiser l'information, c'est-à-dire à la fois l'information dite officielle des diplomates et l'information des politiques, de ceux par exemple aussi qui travaillent, certains diraient qui gèrent, le Parti communiste français.
Quelle impression ressortez-vous du personnage de Vinogradov et de son importance, l'ambassadeur qui va être là pendant 12 ans?
Je pense que c'était le meilleur professionnel à ce poste-là de la période soviétique et même après, je pense.
Parce que c'était un historien, non, pas vraiment.
Oh, pas obligatoirement, non, c'est un homme de culture, vous avez entendu comment, la façon dont il parle français. Je vous remercie d'avoir passé cet extrait, parce que c'est la première fois que j'entendais sa voix, et vraiment, je dois dire que c'est assez impressionnant. Pourquoi? Ben, c'est parce que simplement, à partir de 1959, c'est lui qui propose, dans un document envoyé au comité central et à sa direction, toute l'organisation de ce que nous allons connaître après en France comme étant le système d'information, là aussi certains peuvent dire de propagande, de la Russie et de l'Union soviétique.
Ah bah vous employez le mot dans le livre.
Voilà, mais pourquoi? Enfin, c'est ce qu'on appelle le soft power maintenant, donc tout le monde l'utilisait déjà à l'époque, mais Vinogradov était vraiment un grand spécialiste.
Puis l'entrée dans le détail, hein, vous dites, on pourrait, on pourrait louer un cinéma,
voilà, soviétique. Et donc ce qu'il en reste certainement, c'est le Cosmos qui existe encore aujourd'hui, qui est au temps du monde soviétique, était un lieu important.
À côté de Saint-Sulpice à Paris. Et puis on organise les échanges, c'était dès son arrivée, ou peu après son arrivée, sous la 4e République finissante, avait eu lieu ce grand échange d'artistes. C'est une archive impayable de la radio française avec Louise Elina.
Ah, vous entendez en ce moment côté en français Monsieur Tcherkassov, célèbre acteur soviétique, en même temps que député des soviets, vous parlez français?
Дорогие друзья, вы себе не представляете, как нам великолепных, знаменитых деятелей искусства Франции.
Ce n'est pas tout à fait du français, n'est-ce pas Gérard Philippe?
Il a exprimé la joie de la délégation soviétique d'être reçue, je suppose, avec autant de chaleur que ce qu'a éprouvé la délégation française lorsqu'elle fut à Moscou, à Kiev et à Leningrad.
Danielle Darieux, elle a fait le voyage de Moscou tout récemment. Elle est revenue en avion toute une nuit en voyage. Et qu'est-ce qui vous a frappé le plus à Moscou dans votre voyage? Qu'est-ce que vous avez rapporté? Vous avez fait du shopping?
Oh, j'ai fait du shopping, naturellement. J'ai rapporté des ravissantes petites timbales émaillées de toutes les couleurs. C'est très joli. Puis des petits chapeaux brodés. Et puis des poupées, naturellement, pour toutes mes petites nièces. Et puis j'ai rapporté surtout des souvenirs merveilleux de gentillesse, de joie, d'un accueil merveilleux. Et
vous êtes allé au spectacle là-bas?
Je suis allée au spectacle, j'ai vu des ballets, j'ai vu danser Ulanova, qui est étonnante, extraordinaire, et j'ai été aussi au ballet à Leningrad. Et puis qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu un théâtre de marionnettes, très très joli. J'avais jamais vu de marionnettes et je dois dire que j'étais.
C'était la première fois que vous étiez là-bas?
Oui.
Au moins, Lise Elina était-elle polie? Elle donnait exactement les vrais prénoms. Lise Elina, n'est-ce pas, Gaël Georges Moulec? Donc c'est très important, ça, le dispositif. Sportif aussi? Non, pas encore.
Sportif, quelques échanges, mais ils viendront un peu plus tard.
Alors, on prépare d'arrache-pied, dans les premières années de la République gaullienne, le premier voyage officiel. Ça met beaucoup de temps à être préparé, un voyage officiel?
Alors c'est une chose qui dure, parce que je dirais que les soviétiques invitent De Gaulle. C'est fait par Khrouchtchev dès sa venue en France en avril 60.
C'est de ça que je voulais que vous nous parliez. Voilà. Et donc, comment ça se prépare, le voyage de Khrouchtchev?
Alors le voyage de Khrouchtchev se prépare part à la fois par, je dirais, la liste des questions abordées, qui sont agréées des deux côtés, et puis aussi et surtout par des opérations, que je dirais, de communication, puisque tout le monde se souvient, au moins ceux qui étaient nés à cette époque,
de cette
visite.
Madame Khrouchtchev.
Madame Khrouchtchev, bien évidemment.
Au sourire digne de la Joconde, disait
au moins, RTL. Et puis les voyages dans les provinces, puisque ça aussi, c'est important.
Ça a duré plus d'une semaine, et ça a eu en effet beaucoup d'écho en France. Juste un petit moment, l'ORTF, toujours, vous allez noter l'insolence des questions des journalistes.
Au pavillon Dauphine, M. Khrouchtchev avait rendez-vous avec 250 journalistes. Petite manifestation sportive pour laquelle il a un faible.
Et maintenant, j'attends vos questions. Comment on dit ? Vous
voulez ?
Qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez le général de Gaulle ?
Какое ваше самое выдающееся впечатление от генерала де Голля?
Самое выдающееся впечатление.
Что вас больше всего поразило? Но мы, он peut dire, j'ai eu l'impression la plus frappante. C'est ça la réponse.
De Gaulle lui considérait Khrouchtchev un peu comme un self-made man, et d'ailleurs, dans les mois qui ont suivi, le comportement de Khrouchtchev est apparu comme assez peu diplomatique. Crise de Berlin, crise des missiles de Cuba. Et au fond, on a l'impression, à vous lire, ce sont les mots que vous utilisez, que ce premier voyage, ce premier échange au niveau des chefs d'État, c'est un coup pour rien.
Mais c'est un coup pour rien, mais surtout, je dirais, à cause ou du fait de la conférence qui était prévue de se tenir à Paris en mai 60 et qui est un échec du fait du survol du territoire soviétique par un avion espion piloté par Gary Powers que les Russes arrivent enfin à abattre après pas mal d'essais, et Gary Powers sera jugé et retourné après aux États-Unis, a été échangé contre un espion soviétique.
Ça s'était produit juste à la veille.
Je dirais que les demandes soviétiques étaient peut-être justifiées, mais surtout ce qu'ils n'étaient pas, c'était la façon dont elles étaient présentées vis-à-vis des autres dirigeants qui étaient présents à cette conférence. Et on peut dire que De Gaulle a été déçu par cette façon de faire, et ça a eu bien évidemment des conséquences qui se sont ajoutées aux crises que vous avez rappelé.
Et où De Gaulle a quand même pris le parti des États-Unis, disant que dans l'affaire de Cuba, Khrouchtchev n'irait pas jusqu'au bout.
Je dirais que De Gaulle ponctuellement prend le parti des États-Unis, tout en gardant comme stratégie la vision, la nécessité de se débarrasser de soldats étrangers du territoire français. Soldats alors, américains, bien évidemment, dans le cas précis.
Alors, il y a deux points sur lesquels les Soviétiques et les Russes convergent depuis un moment, et la convergence va de nouveau devenir visible et effective à partir de 63-64. C'est l'organisation de l'OTAN et c'est l'Allemagne. L'organisation de l'OTAN. La France a maintenant une force de frappe qui lui est propre, et les Américains, ils proposent une force nucléaire multilatérale dans le cadre de l'OTAN.
Alors, la question de ces forces multilatérales est née dès l'arrivée du général de Gaulle, qui demande dans une lettre au président américain une réadaptation de la direction de l'OTAN, prenant en compte le rôle important de la France. Et c'est cette question qui, de 58 à 66, va nuire à la relation entre la France et l'OTAN, puisque la place que souhaitait obtenir la France dans la direction de l'OTAN ne lui est pas attribuée.
Ce que je comprends moins, c'est que vous expliquiez que sur l'Allemagne, les points de vue peuvent être convergents. La France se tourne vers l'Allemagne, il y a des relations privilégiées entre De Gaulle et Adenauer. La France ne reconnaît pas la République démocratique allemande, le régime communiste de l'Est, ça devrait mécontenter Moscou.
Oui, mais Moscou n'est... ce que vous donnez, c'est la version officielle du rapprochement franco-allemand. La version officieuse, ou celle qui est présentée aux Russes, c'est que nous nous rapprochons parce que nous devons vivre en paix, bien évidemment, mais surtout nous devons être aussi prêts en cas de réarmement, de remilitarisation, de revanchisme allemand. Et dans cette direction, le discours français n'est pas si loin du discours soviétique.
63, année cruciale, on se rabiboche. 64, ça va être l'apothéose. C'est pas par hasard, à mon avis, que Delanoë écrit cette chanson pour Gilbert Bécaud qui a eu tant d'écho.
dans sa chambre à l'université. Une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Pour l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est le titre d'un livre de Gaël Moulec. Nous sommes en 1964. Les grands projets franco-soviétiques se déploient. Juste quand même une zone d'ombre. Est-ce que l'ambassadeur de France à Moscou n'a pas été approché de trop près par une guide dont je ne sais si le prénom était Nathalie, et il est disgracié par le général de Gaulle qu'il convoque. Alors, monsieur l'ambassadeur, on couche maintenant?
Oui, c'est une anecdote, si vous voulez. La réalité des choses est que même si les politiques se rapprochent, les services continuent de travailler, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc c'était une prise comme une autre. Il est un peu étonnant qu'elle se soit passée à ce moment-là. Je dirais que la réalité du problème, le pourquoi des choses n'est pas établi jusqu'à maintenant. Il est vrai que l'ambassadeur en titre revient en France à ce moment-là et sera mis en retraite rapidement.
La question de l'OTAN continue à creuser un désaccord entre les États-Unis et la France, à tel point que nous sommes maintenant au début de 1966, mais cette décision du général était prévisible depuis nombreux mois. Et il convoque une conférence de presse, un grand spectacle, comme d'habitude, où il déploie sa vision géopolitique du moment.
Tandis que se dissipe, tout au moins dans une certaine mesure, la perspective d'une guerre mondiale éclatant à cause de l'Europe, voici que d'autres conflits où l'Amérique s'engage dans d'autres parties du monde, comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd'hui au Vietnam, ces conflits peuvent, en vertu de la fameuse escalade, prendre une extension telle qu'on aboutisse à une conflagration générale. Et dans ce cas, l'Europe, dont la stratégie est dans l'OTAN la stratégie de l'Amérique, y serait automatiquement impliqué. Alors nous parlons de l'OTAN.
Eh ben oui, Gaël Moulec, parlons de l'OTAN, dont on parle de nouveau tant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il annonce en 1966, le général ?
Alors, il n'annonce pas le retrait de la France de l'OTAN, il annonce simplement le retrait de la France de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. C'est deux
Donc
choses différentes.
Il garde l'adhésion au traité fondateur.
Il garde l'adhésion au traité fondateur, il garde aussi la présence française lors des réunions ministérielles, lors des diverses réunions de comités. La France continue de participer à l'OTAN au niveau politique, mais ses troupes ne sont plus intégrées aux autres troupes de l'OTAN et bien évidemment, les militaires américains présents sur le sol français quittent la France au cours des mois qui suivent.
Sur le sol français, pas de base étrangère.
Pas de base étrangère, tout à fait.
Mais ce sont des bases alliées, disent
les Américains. Des bases alliées, mais néanmoins, l'uniforme est étranger. Ouais. Donc après 1914 et 1939, il est peut-être aussi compréhensible qu'on ne souhaite pas avoir de présence militaire étrangère sur son terrain.
Alors le voyage de 1966 vient couronner ce grand moment. Vous disiez que ce voyage, il a déjà été préparé au fond depuis plus de 10 ans. C'est un grand moment. C'est la première fois que le général de Gaulle, depuis 1944, remet les pieds en URSS.
Alors je dirais, c'est un grand moment. C'est un grand moment qu'on peut juger à distance. Demander à un soviétique ou un russe maintenant qui était enfant ou qui était vivant, né à cette époque-là, il se rappelle de deux grands moments comme ça. Deux grands voyages, celui de Castro et celui de Gaulle. Les autres n'existe pas. Donc c'est pour vous donner un peu le niveau d'enthousiasme. Il suffit de voir aussi, nous sommes à la radio, mais les images du discours que de Gaulle fait devant la mairie de Moscou pour comprendre que la foule n'avait pas été amenée là par obligation.
Mais il y a convergence sur beaucoup d'autres points que sur ceux qui concernent l'Europe, parce que c'est le moment où la France condamne aussi la politique américaine dans l'Asie du Sud-Est. Peu avant, en 1964, la France avait reconnu la Chine populaire. Il y a beaucoup de points d'accord.
Il y a des points d'accord, mais je dirais que les Français critiquent bien évidemment la position américaine, mais n'entrent pas en coopération claire avec les Russes dans ce domaine-là. Ça reste quand même une autre étape.
Alors la coopération, vous nous parliez des opérations de propagande culturelle de l'ambassadeur Vinogradov. Maintenant, la coopération se déploie sur un champ beaucoup plus vaste, avec régulièrement des rendez-vous, la grande commission, la petite commission, etc.
Alors, sans rentrer dans les détails administratifs, j'essaierai de donner les grands axes. Les grands axes, c'est d'abord l'espace avec la Russie. C'est aussi la télévision de l'époque et bien évidemment le nucléaire civil avec l'envoi de savants, de chercheurs français en Union soviétique pour développer avec la mise au point aussi d'une chambre à bulles.
Mirabel.
Voilà, exactement.
Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais enfin... Bon.
C'est très utile.
Vous pouvez me parler, parce que vous avez l'air très compétent, de l'accélérateur de particules de Serpukhov, non ?
Tout à fait. Donc,
c'est quoi, ça ?
Un accélérateur de particules,
oui. Bon, oui.
Serpukhov, c'est une petite ville à côté de Moscou.
Un accélérateur de particules ?
Les Français.
Avant le CERN ?
Tout à fait. Qui existait. C'est les Russes sont même les premiers, je pense, avec le Tomahawk à avoir mis ça en marche. Et une réelle coopération. On a vu plusieurs centaines de chercheurs et de savants français passer et vivre en Russie à ce moment-là.
Et il y a des villes scientifiques qui ont été fondées à l'époque par Khrouchtchev et
par
le
exemple,
général de Gaulle.
Dubna
a visité l'une d'elles pendant son voyage de 66.
Il a aussi visité Baïkonour. Ce qui était certainement une première à l'époque pour un dirigeant étranger.
Ma connaissance de la chambre à bulles Mirabel étant insuffisante, je voulais plutôt vous présenter une dernière archive, Gaël Moulek, qui concerne les échanges autour du procédé SECAM, fameux procédé de télé en couleur. Alors un reportage bien dans la couleur de l'ORTF de l'époque.
Chers amis, bonjour. La télévision soviétique poursuit ses essais d'émission de télévision en couleur de Moscou vers Paris via le Sputnik relais Molnia 1.
Et à 10h30 très précisément, Raymond Tortora, la transmission commence en effet comme l'ont annoncé ces deux charmantes speakerines russes.
L'image... Vous les avez vues les speakerines
russes ? Oui, je les ai vues, l'image est parfaite.
Elles sont jolies.
L'une est blonde et l'autre est brune. La brune parle un français admirable d'ailleurs. L'image est parfaite. Les téléspectateurs privilégiés que nous sommes peuvent voir en grande première les collections de la mode soviétique pour l'année 66. Et alors là, Raymond Tortora, on ne sait qui ou quoi admirer en premier, les couleurs, les robes
les
ou
mannequins.
Les mannequins. Mais bien sûr, le tout pour être très juste. Enfin, pour donner toute sa valeur au procédé SECAM, c'est la retransmission, sans aucun incident, j'insiste là-dessus, d'un film français sur les fleurs, La chanson des fleurs.
J'espère que vous allez nous faire, Gaël Moulek, un commentaire d'un autre registre que celui de Raymond Tortora.
Oui, on va simplement pour insister sur l'importance de ce procédé SECAM, puisque tout ce qui était proposé aux Russes comme aux Français, c'était le système pâle américain. Donc si on voulait aussi pouvoir avoir une indépendance colorisée, il fallait mettre au point un système valable des deux côtés.
Oui, mais le régime soviétique, c'est du noir et blanc. En 1968, Brejnev occupe la Tchécoslovaquie après sa tentative de révolution démocratique. Et là, le général de Gaulle est bien obligé d'accuser le coup et de dire qu'en dépit de sa volonté de poursuivre la détente, la coopération, etc., etc., le gouvernement français ne peut que faire un geste de recul.
Alors là, il faut être clair, il y a ce qui se passe et ce qui est dit. Ce qui est dit aux Russes, c'est qu'on laisse passer la vague et on reprendra les choses après. Ce qui est dit à la population, c'est peut-être autre chose, certainement. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir qu'il y a une suspension des vrais échanges politiques, c'est-à-dire que les réunions prévues sont suspendues, reportées. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existait une forte coopération militaire entre l'Union soviétique et la France, avec par exemple des choses comme des entraînements de parachutistes français en Union soviétique, ce qui peut surprendre, et que ça, bien évidemment, après 1968, ce sera, on mettra un peu ça sous le boisseau.
Voilà. Un peu ça sous le boisseau. Bon, on note l'information et vous êtes informé parfaitement, puisque vous avez puisé aux meilleures sources. Je rappelle que votre livre, Pour une Europe de l'Atlantique à l'Oural, aux éditions de Paris, est fondé sur les archives de Moscou. Il y a une question perverse que je voulais vous poser. Ça marche, ça, ce rapprochement Paris-Moscou, si Moscou et Washington restent bien en opposition. C'est une triangulation.
On pourrait même dire une avec les Allemands. Puisque, si vous voulez, la question française, l'inquiétude de la France, c'est de voir le rapprochement entre l'Union soviétique et les États-Unis, avec en particulier l'arrivée de Nixon au pouvoir du côté américain, et puis aussi le fait que les Russes, qui sont des gens très 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 pratiques, voient la force que prend l'Allemagne et se dirigent petit à petit vers une coopération aussi importante avec Willy Brandt en Allemagne. Donc les Français se sentent un peu esselés, un peu, ils craignent d'être de ne plus être aussi aimés que ce qu'ils avaient pu être. Et cela se précise au moment de l'arrivée de Georges Pompidou, et c'est un des thèmes qui revient à chaque fois que Pompidou rencontre les dirigeants soviétiques.
Un mot juste sur aujourd'hui, Gaël Moulek. Bon, ceux qui prônent le rapprochement de Paris et Moscou oublient de noter que Moscou et Washington se rapprochent étrangement aujourd'hui.
Rien n'est fait. Rien n'est fait, premièrement, et surtout ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que ce que le discours, le début de discours du général de Gaulle que vous avez donné au début de l'émission, voilà, il parlait ensemble. Il est clair que l'Europe sans la Russie et sans la France n'est pas l'Europe et que nous ne pourrons vivre qu'ensemble. Après, sur quelles conditions, dans quel cadre, c'est autre chose. C'est aux politiques de décider. Mais la philosophie, si on peut dire, du général de Gaulle, c'est que si nous ne sommes pas ensemble, nous ne sommes rien.
Merci à vous, Gaël Moulek. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Inka Negulesco, Nathan Gallo, à la réalisation Valérie Aestaraï, la technique Anne-Laure Cochet. Je ne vais pas faire de rapprochement entre le duo que nous avons joué il y a un instant et votre sujet, Mathieu Bidard.
Ah non, parce que vous, on va aller au-delà du duo pour parler du polyamour. Est-ce qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes à la fois?
Bah oui, il y a même maintenant des sites de rencontres. C'est un peu un oxymore quand même, site de rencontres. Mais vous allez nous expliquer tout cela dans un instant.